fait, c'est le Brésil qui vient d'adopter une vraie loi, qui vient de se prononcer sur la législation en cas de séparation des couples, pour statuer sur qui garde les animaux.
Et proposer, alors s'ils le veulent, si le couple qui se sépare le veut, de proposer une garde alternée des animaux de compagnie, puisque au Brésil, eh bien, on considère que ces animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille, et donc il faut une loi, un cadre juridique pour permettre la répartition des animaux. Il peut y en avoir plusieurs, d'ailleurs, des chats, des chiens, etc. En France, ces animaux sont toujours considérés comme des biens. Donc finalement...
Ça a évolué. L'ambiguïté de la loi française qui d'ailleurs montre bien que nous sommes dans un en même temps qui ne pourra pas durer.
On va en parler.
Des biens,
on va te remettre à jour.
C'est un bien meuble, mais en même temps, c'est un être doué de sensibilité. Donc,
Donc c'est un meuble qui a un cœur, en fait.
Voilà, c'est considéré. Alors je termine. C'est donc considéré toujours comme un bien meuble, même si effectivement on a un petit peu fait évoluer la loi, mais pas suffisamment pour arriver comme au Brésil à considérer qu'on peut organiser une garde alternée.
Alors, Maître Pégan, que dit le Code civil? Qu'est-ce qui est prévu en France, alors?
Maître Pégan sur un arbre perché. C'est pas ça, c'est une autre. Bref. Aujourd'hui, la question est de savoir si, en cas de séparation de couple, il y a une loi ou un décret qui permet de pouvoir donner des dispositions particulières sur qui disposerait de l'animal de compagnie. Il n'y en a pas.
Alors, comment ça s'organise?
Alors, moi, quand je le plaide devant le juge aux affaires familiales, quand il y a un chien, un chat, ça arrive aussi, et je préfère le dire, avec des poissons rouges, ça m'est déjà arrivé, bon, ça fait partie d'un package, et ben, le juge considère que ça reste encore comme des meubles. Donc, du coup, il fait le partage comme des meubles. Et donc, ça peut être.
Il n'y a pas une question d'achat du chien, ou qui a acheté le chien, ou ça a été. Avant le mariage?
Non, parce que du coup, après, il y a aussi un lien affectif qui s'est créé. Donc, c'est sauf meilleur accord des parties. Et en général, en tout cas, tous mes clients, ils ne sont pas tous intelligents, mais bon, là, ils l'ont été. À chaque fois, eux, ils arrivaient à se mettre d'accord entre eux. Mais le juge, lui, il n'y a pas véritablement de décret et de loi qui permet de pouvoir se reposer dessus pour juger. Du coup, il fait en fonction de ça.
S'il n'y a pas d'accord, comment ça se passe?
Souvent, c'est dans les conventions de divorce avec consentement mutuel. On peut insérer des clauses qui font que le JAF, il sait où aller, puisque le couple s'est déjà entendu. Donc ça, c'est pour les divorces qui se passent bien,
quand ça se passe bien. Et alors moi, pour la petite anecdote, c'était jusqu'en 2015 que véritablement l'animal était encore considéré comme un bien meuble, j'ai pu bénéficier de cette disposition pour pouvoir attaquer mon éleveuse. Donc vraiment, je suis allée au tribunal.
Éleveuse de quoi?
De mon éleveuse de chat, parce que je suis propriétaire d'un chat que j'adore, qui s'appelle Idem, c'est la prunelle de mes yeux. Et en fait, j'ai acheté un chat au départ, donc j'ai donné un acompte, et mon chat que j'avais choisi était censé avoir quatre pattes blanches. Je ne rigole pas, je suis pas une vieille fille avec son chat.
Donc, vas-y, raconte.
Et donc, j'ai choisi mon chat avec quatre pattes blanches, et en fait, à la livraison, donc 2 mois et demi après le sevrage, eh bien, figurez-vous que mon chat s'est retrouvé qu'avec une seule patte blanche. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Quand je suis allée récupérer mon chat chez l'éleveuse, elle m'a posé plein de questions sur le recouvrement de sa pension alimentaire, de son ex, etc. Donc moi, dans l'empathie, forcément, je lui donne des conseils juridiques, et elle me détourne comme ça de mes moyens de contrôle sur le chat. Je rentre chez moi. Figurez-vous que le chat, le lendemain, ça n'allait plus. Je l'emmène chez le vétérinaire. Le vétérinaire me dit « Mais c'est quoi, madame, votre chat ?» Je dis « Vous plaisantez, j'ai pas dépensé 900 euros pour que vous me disiez, vous, en tant que vétérinaire, qu'est-ce que c'est comme race de chat ?» Il me dit « Désolé, mais vous me dites que c'est un sacré de Birmanie. Mais le sacré de Birmanie, normalement, il a 4 pattes blanches. Et là, il en avait qu'une. » Donc du coup, j'ai appelé l'éleveuse qui m'a dit « je me suis trompée. » Et donc le chat que j'avais réservé avait été donné à quelqu'un d'autre. Donc vous doutez bien. Et en fait, j'ai trouvé ça par principe tellement choquant, je me suis dit elle a trahi la confiance que j'avais dans un éleveur professionnel. Du coup, je l'ai attaquée parce qu'elle m'a dit « Ah, de toute façon, vous êtes une procédurière, jamais j'aurais dû vous le vendre. » Et donc, on est parti devant le tribunal d'instance, ça a duré 1 an et demi l'histoire. Eh ben,
t'as gagné ?
J'ai gagné. J'ai gagné sur le fait qu'elle m'a remboursé l'animal. Et en plus de ça, je l'ai attaqué après au commerce et je lui ai fait fermer son élevage pendant 4 mois.
Et tu as gardé le chat à la fin ?
Et j'ai gardé le chat. Mais parce que justement, c'était encore considéré.
Voilà.
Fred est avec nous. Attends, oui, juste parce qu'on a Fred qui va nous...
Pardon, j'ai mobilisé la parole.
Non, t'inquiète pas, tu vas pouvoir...
C'est 13h, fin d'émission.
Mais on a Fred qui justement veut parler de la garde alternée parce qu'il est divorcé, il est dans le Var. Et comment ça s'est passé pour les chiens, Fred ? Alors, bonjour, ou le chien, dites-moi.
Bonjour. En fait, je vais essayer de faire court. J'étais donc marié. Ma femme avait un basset-hound. Comment dirais-je ?
Quoi ?
Et
ensuite, un basset-hound, c'est le chien comme de Colombo.
D'accord.
Voilà.
Ah. C'est bien. D'accord.
Voilà. Et ensuite,
très gentil chien. C'est des très gentils chiens.
Donc ça, c'est son chien. Elle l'a acheté. Et ensuite, on a adopté, pour pas que l'autre soit tout seul, un Canet Corso qui avait 5 mois.
Très bien aussi,
et
Canet Corso, très joli.
On s'est séparé donc en 2024. Et donc là, comment on fait avec les chiens? Alors, bah, ça a été assez simple, on va dire, si on est, bah, je vais pas dire intelligent, mais bon, mon ex a une grande maison, un grand terrain, piscine, etc. Donc les chiens sont beaucoup mieux chez elle que chez moi, qui fait, enfin, j'ai encore réduit l'appartement malheureusement de 30 mètres carrés, où pour les toutous c'est un petit peu compliqué. Bien que je me suis débrouillé à avoir un petit logement avec un rez-de-jardin pour mes toutous. Donc je les prends 3-4 jours par semaine, ou plus, ou moins. Il y a pas de règles strictes.
D'accord. Oui, c'est meilleur c'est
parce
c'est
que vous entendez bien avec votre ex, ouais, voilà. Et puis, malheureusement, pas le cas toujours dans les
séparations. Oui,
et vous êtes intelligent. Voilà.
Et vous partagez les chiens, les frais, vous partagez tout.
Un jardin.
Voilà. D'accord. Vous êtes Fred, il a réussi à bien s'entendre.
De bienveillant.
Barbara.
C'est très intéressant cette question parce que ça montre bien que on est aujourd'hui dans une époque pivot où l'animal. Dans tous les pays, j'irais occidentaux, puisque on voit l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, le Brésil, tous ces pays ont beaucoup changé sur la question de la considération de l'animal domestique, voire animal de compagnie, puisque là on est sur encore une autre catégorie d'animal domestique, c'est l'animal de compagnie. Ce n'est plus un bien meuble, c'est pas un canapé. Quand on se sépare, tu prends le canapé, et l'autre prend pas le canapé, on va pas se couper le canapé en deux. Bon, l'animal, il a un statut, ça va choquer peut-être des gens, mais c'est pour ça qu'on parle au Brésil de coparentalité animale. Il a pour certains, dans certaines familles, le rôle d'un bébé, d'un enfant. Il y a même des gens qui le considèrent comme leur enfant, d'autres qui disent, de toute façon, c'est comme un enfant. Bien sûr, on sait très bien que c'est un animal, mais c'est aussi comme un enfant. Et dans le droit français... Ça se juxtapose avec le fait que c'est un être vivant doué de sensibilité. On voit bien, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne pourra pas tenir longtemps ce statut juridique ambigu. On ne peut pas être à la fois un bien meuble et en même temps un être vivant doué de sensibilité. Aujourd'hui, le droit, dans bien souvent, par la jurisprudence, et c'est ce qu'a expliqué Sandrine, il évolue parce qu'il évolue avec la société. Aujourd'hui, on voit bien que l'animal, il a une place qui est une place... comme un membre à part entière de la famille, à part entière. Donc aujourd'hui, quand on est sur une question de garde, les juges, souvent, ils vont regarder qui s'en occupait le plus pour affecter l'animal, la capacité financière à assurer les soins, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi un partage financier, le lien affectif, parce que parfois, dans un couple, le lien affectif n'est pas le même, l'animal lui-même se lie plus avec l'un ou l'autre, et surtout, s'il y a la présence d'enfants. Parce que ça, c'est important quand un couple se sépare. Si vous avez un couple qui se sépare et qu'il n'y a pas de garde alternée, et ben, c'est normal qu'on laisse l'animal avec l'enfant, parce que c'est très important dans la construction aussi de l'identité de l'enfant. Et s'il y a la garde alternée de l'enfant, il faut que l'animal aussi, il transite. Sauf que, attention, pas les chats. Là, pour une question d'éthologie, le chat est un animal très territorial. Si vous trimballez le chat d'une maison à l'autre toutes les semaines, alors bon, ça avec le problèmes. Temps peut-être ça qu'il va s'habituer, d'aller-tour. Mais c'est perturbant pour un chat. Oui, le chien, il est beaucoup plus le territoire du chien, c'est son humain. C'est-à-dire que
et
vraiment,
pour les vacances scolaires,
il va n'importe où avec son humain. Mais le chat, non, le chat, il est très territorial. Donc il faut pas faire de la garde alternée avec le chat. Attention, éthologie. Donc bien d'accord. Connaître l'animal, bien Abel, connaître les animaux.
Abel, t'as un animal ou t'as un chien ou un chat?
Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout.
Mais t'as changé d'avis avec nous aujourd'hui.
Il est orphelin.
Je suis ému d'écouter tous ces amoureux des animaux et tout cet engagement. Non, mais j'avais une question. Est-ce que ça peut arriver un jour qu'un chien porte plainte?
Bien sûr.
D'accord.
Oui, par l'intermédiaire d'association.
C'est une question sérieuse.
Oui, bien sûr, par l'intermédiaire d'association. Écoute, on peut bien poursuivre quelqu'un parce que son chien a mordu, alors que pour moi, je considère que c'est pas méchant. On en avait déjà parlé.
Est-ce qu'un chien peut porter plainte contre un autre chien qui lui mord la queue?
Mais l'association, elle va pas déposer plainte au nom du chien. Elle va déposer
plainte.
Elle va déposer plainte
contre
le propriétaire. Tu peux porter plainte pour la défense du chien
contre le propriétaire.
On a un autre exemple.
Mais si deux chiens se battent parce qu'il y en a un qui a pas fait attention à son chien qui est
les maîtres,
je remercie Fred. Maîtres, on a un autre exemple avec Julien qui est technicien aéronautique. Bonjour Julien.
Que Curtis n'a toujours pas été euthanasié.
Julien, vous aussi, exemple de divorce avec chien au milieu, c'est ça?
Alors non, moi c'est pas le divorce. Enfin, je suis pas divorcé, mais disons que si je devais me séparer de ma compagne,
ah oui, peu cher, on va pas lui dire.
Pour moi, le chien enfin, je le considère comme un enfant, c'est un membre de ma famille, en fait. Il y a un lien affectif très fort.
Donc, ça serait un déchirement d'être séparé de votre animal aussi.
Plus que de.
Plus que votre ex.
C'est un déchirement. Les deux seraient un déchirement. Mais en vrai, c'est un déchirement.
Ils sont toujours ensemble.
Et Barbara, elle dit un truc très juste. À partir du moment, en plus de ça, il y a des enfants dans un foyer. Oui. Pour moi, il est important que l'animal suive les enfants parce que ça aide la construction de l'enfant. Et il y a un lien affectif très fort. Mais là où, malgré tout, je trouve que c'est un peu accessoire, ces questions-là, c'est que de là en faire une loi, c'est un peu exagéré. Je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des gens. Et après,
oula, malheureusement, monsieur.
Mais alors là, malheureusement, c'est pas toujours
le
cas.
Dans les prétoires, on voit que l'intelligence...
Justement, lorsqu'il y a une séparation, souvent, hein. C'est-à-dire que Maître Pégan peut imaginer que, comme ça arrive malheureusement parfois avec les enfants, l'animal devient un objet de crispation.
Exactement.
Et un enjeu de pouvoir.
Lorsque
aussi.
Le couple conjugal, moi je trouve que ça c'est toujours quelque chose que je comprendrai jamais. Quand le couple conjugal n'existe plus, le couple parental, lui, il existe pour l'éternité.
Oui, mais ça c'est encore dans
l'idéal.
Vous
restez un couple parental.
C'est dans l'idéal.
Et avec
Barbara.
Les animaux, c'est la même chose. L'amour n'existe plus dans le couple.
Mais
ça arrive.
Oui, mais l'amour se transforme en haine.
Mais l'amour qu'on a pour ses enfants, ses animaux, c'est pour toujours.
Je regarde. Julien. C'est très bien dit, Olivier.
Julien, c'est bien dit. Je suis en train d'écrire un livre. Voilà.
Regardez, transformer en aide. Lettre à mon chat, ça va.
Édition Télémarque.
Le chat qui va te poser des questions.
Lettre à mon chat, que je n'ai pas. Ce chat que je n'ai pas.
Lettre à
ma migale.
Pas d'animaux. Il a pas d'animaux.
Il en a eu. Il en a eu.
J'ai eu un chat.
Tu n'as pas Lilo.
J'ai eu des chats.
Jamais vu Lilo.
C'est un
tétard. Je suis allé à Nice, mais t'aurais dû venir avec. Elle a
dédicace. Anna a toujours dit qu'elle garderait pas.
Moi, l'enjeu sera pas le chien, sera les boules à cave à vin.
Oh.
Moi, c'est, tu gardes le chien et je garde la cave à vin. Lorsqu'un mariage a été contracté et que l'achat ou l'adoption de l'animal est antérieur à la situation, l'animal est alors considéré comme le bien propre de l'époux qu'il a acheté ou recueilli.
Oui.
Si l'animal arrive pendant le mariage, tout dépend de l'existence du contrat de mariage. Si le couple vit sous la régime de la communauté réduite aux aquées ou de la communauté universelle, l'animal acquis ou adopté est supposé appartenir aux deux époux. Il n'y a que dans le cas d'un régime de séparation de biens que l'animal appartient à celui qui en a fait l'acquisition à condition d'apporter la preuve de la propriété.
Oui, c'est-à-dire
l'ICAD.
Quand tu, parce que c'est vrai que quand tu déclares l'animal à l'ICAD, tu vas pas mettre, souvent, tu vas pas mettre monsieur et madame. Donc, bon. Mais, la réalité, c'est le lien affectif que tu as avec, c'est pas
et
un
là,
bien meuble.
On en revient ensuite à ce qu'a dit Sandrine Pégan tout à l'heure. En cas de conflit, d'impossibilité de se mettre d'accord, eh bien, c'est le juge des affaires familiales qui tranche et qui prend alors la décision de confier l'animal
et qui peut
à
avoir
l'un
de lourdes conséquences.
Ou à l'autre. Mmh. Mais il prend en compte les éléments comme peuvent
si
les enfants.
Et s'il n'y a pas de garde alternée, le juge peut décider d'une pension alimentaire et d'un partage des frais vétérinaires. Parce qu'excusez-moi, parce qu'il faut partager aussi les frais alimentaires, hein, c'est comme les frais de garde, hein.